Bonjour à chacun. Les anciens vous proposent ce matin un nouveau volet sur les notions de base de notre foi. Après avoir parlé de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, de Satan, des anges, notre réflexion s'arrêtera sur quelqu'un qui nous concerne plus particulièrement, chacun, l'homme. Et d'abord une question. Quelle est l'origine de l'homme? Pour le chrétien, la réponse se trouve dans la Bible, qui affirme clairement... Ah, c'est dommage, hein, mon petit effet est raté. Hein, quelle est l'origine de l'homme? La technique n'a pas suivi. C'était un petit clin d'œil. Pour le chrétien, la réponse se trouve dans la Bible qui affirme clairement que c'est Dieu qui a créé l'homme. Quand on nous dit que c'est Dieu qui a créé l'homme, c'est que c'est Dieu qui a créé l'être humain. Et puis, on va mettre les versets de la Genèse qui nous parlent précisément de cela. Tu peux les faire défiler, Pierrick, merci. Je ne vais pas les lire, je vais vous les laisser sous les yeux. Ce sont les versets de Genèse 1, 26 à 31, qui nous parlent de la création de l'homme. C'est le sixième jour de la création. Dans l'Ancien Testament, et je vous laisse lire ces passages, dans l'Ancien Testament, le terme hébreu Adam, puisque c'est comme ça qu'on connaît le nom du premier homme, le terme hébreu Adam, littéralement, ça veut dire le rouge. On verra pourquoi. La suite, c'est intéressant. C'est le nom générique de la race humaine. Comprenez Adam, synonyme homme, quelqu'un, être humain, personne, gens. Mettez tous les mots qui vous conviennent pour appeler quelqu'un. Voilà, c'est Adam. L'équivalent grec, le mot grec, c'est anthropos, qui a donné notamment l'anthropologie, la science de l'homme, l'étude de l'homme. Le terme hébreu, il y avait différentes langues à l'époque, hein, le terme hébreu, c'était Enoch, qui signifiait mortel, périssable. Et c'est aussi un synonyme d'Adam, qu'on trouve par exemple dans le psaume 8, verset 5, on le lira tout à l'heure. C'est un synonyme. Tous ces mots sont synonymes en ce temps-là. Dans la Bible, d'autres termes décrivent également l'homme. Et vous les connaissez. L'esprit, l'âme, le corps, la chair. Ils seront développés ultérieurement lors d'un prochain dimanche. Paul trace également, en Romains 5, 21, un parallèle entre Adam et le Christ, appelant notre Seigneur le second homme et le dernier Adam. Donc voilà pour une image un petit peu générale de ce que veut dire le mot homme dans la Bible. Mais ce qui est important, c'est de savoir que l'homme a été créé par Dieu. L'homme a été créé par Dieu à partir de la poussière de la terre. Et là, on a peut-être une indication sur le rouge, parce que dans beaucoup de pays, notamment les pays du Moyen-Orient, la terre est très rouge souvent. Et donc on a là une idée de peut-être... un affinement de ce nom, ce terme, le rouge. Physiquement vu, donc, l'homme n'est que poussière et retournera à la poussière. Et nous lisons ça dans la Genèse, chapitre 3, verset 19, où il nous est dit « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Ou encore dans l'Ecclésiaste, un autre texte qui nous dit « Tout va dans le même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. » Adam, c'est l'homme de la terre, le terreux, le terrien, celui qui est issu et qui est vraiment, qui a ses racines, je veux dire, les deux pieds sur terre, vraiment, le bouseux si on veut. Si vous voulez trouver un autre mot qui vous convient mieux, c'est vraiment l'homme rural, l'homme de la terre, tel qu'il est sorti de la terre et qui la charge de cette terre. Initialement, au risque de vous choquer, il ne diffère pas d'autres créatures, c'est un être de chair, entièrement dépendant de la grâce de Dieu. Genèse 18, 27, on nous parle d'Abraham, un peu plus loin, où il nous est dit « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Vous vous rendez compte d'une personne comme Abraham, qui a cette réflexion-là, « Moi qui ne suis que poudre et cendre, j'ai osé parler à Dieu. » C'est-à-dire la dépendance que l'homme a de Dieu. Ou encore, dans le psaume 103, à partir du verset 15, « L'homme, et vous connaissez ce passage, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. » Mais la bonté de l'Éternel durera jamais sur ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Il y a cette image de dépendance tout au long de notre vie, de notre Dieu, en tant que créature de Dieu, issue de la poussière et retourne dans la poussière. Ou encore dans Ésaïe, au chapitre 2, le verset 22, « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Mais de quelle valeur est-il, ce souffle ? » Donc il y a cette relation, toujours, entre l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Cet homme créé par Dieu à son image, et c'est Philippe qui va nous développer dans un moment l'idée de cette image de Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme avec une condition immortelle. Immortel. C'est-à-dire que le premier homme est immortel. Équipé de raison, il peut raisonner, de connaissance, il est intelligent, de justice, il saura faire la part des choses, et d'une vraie sainteté, il est à l'image du Dieu saint. La loi de Dieu, et c'est aussi important de savoir, de se rappeler cela, c'est que dans le premier homme, la loi de Dieu est inscrite dans le cœur de l'homme. La loi de Dieu est inscrite dans le cœur. Ce n'est pas quelque chose qu'il va apprendre, il est, comment je pourrais dire ça ? Il est fabriqué comme ça, avec la loi de Dieu en lui. C'est un attribut qu'il a en lui, comme le fait de savoir dessiner par exemple. Lui, il a la loi de Dieu en lui, carrément, dedans, au-dedans de lui. Et dans Romains 2, au verset 14, on lit « Quand les païens, qui n'ont pas la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. » Vous voyez les traces qui restent au fur et à mesure dans la civilisation. Au départ, la loi de Dieu est dans le cœur de l'homme. Cependant, laisser la liberté de leur propre volonté, qui était capable de changement, ils avaient la possibilité... Quand je dis « ils », c'est le premier homme et la première femme, ils avaient la possibilité de suivre ou de transgresser la loi de Dieu, le plan de Dieu. En plus de cette loi inscrite dans leur cœur, ils avaient reçu spécifiquement ce commandement de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous connaissez la suite, Ecclésiaste. Vous savez, l'Ecclésiaste, ce penseur, ce sage qui réfléchit sur beaucoup de choses. Relisez l'Ecclésiaste, il y a vraiment des moments de méditation importants. Ecclésiaste 7, verset 29. « Seulement voici ce que j'ai trouvé. » Donc l'Ecclésiaste, au bout de beaucoup de réflexions, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. On a beaucoup à apprendre de l'Ecclésiaste. Un autre point important, c'est que Dieu a créé l'homme volontairement. Délibérément. Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas simplement comme ça pour faire un truc de plus. Non, Dieu a créé l'homme délibérément. Il aurait très bien pu s'en passer, Dieu, de l'homme, voir tous les soucis qu'il a eus avec depuis. Il aurait très bien pu s'en passer. Mais son plan, son idée, était de faire de l'homme un partenaire relationnel. Car Dieu est un Dieu d'amour et de relations. L'homme était destiné à entretenir, est destiné à entretenir une communication privilégiée avec son Créateur. On trouve dans le Deutéronome au chapitre 8, verset 3, et dans Matthieu 4, le même rappel, verset 4, « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » C'est-à-dire que l'homme, avec simplement du pain, ne pourra pas vivre, il a besoin de cette relation avec Dieu, pour vivre. Aussi longtemps que le premier homme et la première femme gardèrent cette relation, cet amour et cette loi en eux, ils furent heureux dans la communion avec Dieu Et ils dominèrent sur les autres créatures. C'était le plan de Dieu, relisez le début du chapitre de la Genèse. D'ailleurs, Dieu ne se trompe pas et Dieu affirme que l'homme est une réussite. Si vous lisez le début du chapitre de la Genèse, toutes les fois qu'il y a un jour qui est terminé, on nous dit « il y eut un soir, il y eut un matin ». Ce fut le premier jour, deuxième jour. Dieu vit que cela était bon. Une seule fois, Dieu va dire, Dieu vit que cela était très bon. C'est après avoir créé l'homme. Curieux. Donc Dieu a accompli totalement sa mission en créant l'homme à son image. Alors pourquoi avoir créé l'homme ? Ou autrement dit, quelle est sa destinée ? Ou encore, plus simplement, quel est le but de notre existence ? Les vieux catéchismes qu'on va trouver depuis le 15e, 16e siècle, au début de la Réforme, avait l'habitude de fonctionner sous forme, si vous en avez lu, de questions-réponses. Pourquoi ? Et avec la réponse derrière. Et à la question, quelle est donc la destinée de l'homme ? Par exemple, le catéchisme de Westminster, en 1644, vous voyez que ce n'est pas d'aujourd'hui, va nous dire, pourquoi l'homme a-t-il été créé ? Réponse, pour glorifier Dieu et se réjouir de sa présence à jamais. Voilà le but principal de la vie humaine, connaître Dieu, entrer en relation avec Dieu, parce que c'est lui qui nous a créés. Et quel est le principal but de notre vie d'homme et de femme ? C'est de glorifier Dieu et de trouver en lui notre bonheur éternel. S'il nous a créés et placés dans ce monde, c'est pour être glorifié en nous. Et ce n'est pas qu'un temps de 10h30 à 11h le dimanche matin, où on glorifie Dieu. C'est tous les jours dans sa vie. Mais c'est important. Je vois que ça fait sourire, mais c'est important. Parce que Dieu ne nous a pas créés le dimanche entre 10h30 et 11h. Non, il nous a créés aussi entre 10h30, entre 11h et midi, etc. Et tous les jours, et ainsi de suite, et toutes les semaines. Et depuis le début de la création, c'en est ainsi. Nous sommes sur terre pour glorifier notre Dieu. Si Dieu nous a créés, quel autre but aurions-nous sinon que de le glorifier, lui qui est notre Créateur ? Comment Dieu nous fait connaître ? Comment on pourrait le glorifier ? Qu'est-ce que ça veut dire glorifier Dieu ? Eh bien, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les chants que nous avons chantés, les textes que nous avons lus ce matin, nous invitent à glorifier Dieu. Et j'ai parlé de ce psaume 5 tout à l'heure, de ce psaume 8, pardon, tout à l'heure, et je vais vous lire le psaume 8, parce qu'il est très très important, et il donne vraiment, vraiment, vraiment l'image de quelqu'un qui glorifie Dieu. C'est juste un extrait du psaume 8, je vous le lis depuis le début. Au début du psaume 8, on nous dit « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre les adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et là, on arrive sur notre texte. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. On a là résumé notre état d'adoration devant Dieu. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait pour nous. Tout ce qui a été créé dans ce monde, par Dieu, il l'a fait pour nous. C'est pour ça qu'il est important, jour après jour, de lui rendre gloire. Dans les récits de la création, dans le livre de la Genèse, Dieu va encore donner à l'homme plusieurs tâches précises qui nous interpellent particulièrement aujourd'hui. Et ce sont là les bases et les repères fondateurs clairement posés par Dieu pour guider notre vie d'homme et de femme, mais aussi notre vie de couple, notre vie de famille, notre vie d'acteur dans la société. Alors c'est des mots qui ont été donnés vraiment à Adam et à Ève pour le moment présent. Mais nous devons faire l'effort de ne pas rester bornés à dire « la Genèse c'était un temps, point », mais de voir qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de ça. Si Dieu nous a créés, nous aussi, ce n'est pas pour qu'on en reste au livre de la Genèse. C'est pour qu'on aille dans notre temps qui ne ressemble pas à celui de la Genèse. Alors dans la Genèse, au verset chapitre 1, verset 28, on nous dit, il est demandé à Adam de s'approprier la terre et de la peupler. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, s'approprier la terre et la peupler ? Eh bien, c'est y créer une descendance, c'est-à-dire que Dieu est un promoteur de la famille, on va dire, créer une descendance, mais une descendance qui est en elle la loi de Dieu, la notion de la nécessité d'entrer en relation avec Dieu. Et au-delà, ça veut dire aussi la mission qu'il nous donne d'annoncer la parole, de propager cette loi de Dieu à ceux qui ne l'ont plus en eux, qui l'ont oublié, qui ont perdu cette image. Deuxième point qui est donné à l'homme, tu domineras sur la création. Vous savez que c'est Adam qui a donné les noms des, le nom des animaux. Je ne sais pas comment il a fait pour trouver ornithorynque, par exemple, ou encore d'autres. Hein. Si vous prenez le nom des dinosaures, c'est compliqué. Hein. Il avait vraiment de l'imagination, hein, mais il y en avait tellement qu'au bout d'un moment, il fallait bien inventer aussi, je pense. Mais bon, on nous parle de cette domination. Et dans l'état initial, Adam domine sur tous les animaux de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, je crois que ça veut dire accepter l'ordre qui est établi par Dieu, cet ordre créationnel établi par Dieu dans les moindres détails de la vie, de tous les jours, comme un élément logique, pas comme quelque chose à combattre, mais accepter que ce qui vient de Dieu est bon, a été créé bon, et je dois le respecter comme bon, parce que Dieu l'a créé ainsi, et non pas bouleverser et donner d'autres forces, puissances, relations à des choses que Dieu a créées simplement sous la domination de l'homme. Un autre point, encore, qui nous est donné dans le chapitre 2 et au verset 15, c'est cultiver et garder le jardin d'Éden. Ce jardin magnifique dans lequel Dieu a mis l'homme et où l'homme avait tout ce qu'il lui fallait dans ce jardin. L'homme avait tout ce dont il avait besoin pour vivre. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Ça veut dire que nous devons être tous cultivateurs. Il y a 30 ans, cette église, la plupart, une grande partie des gens étaient cultivateurs. L'heure du culte, 10h30, était basée sur l'heure de la traite. C'est pour ça que le culte était tard, pour que les gens puissent traire avant et venir après, par exemple. Bon, les temps changent, il y a moins de cultivateurs, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous maintenant ? Eh bien, certainement une invitation à retrouver cette nature, à jouir de cette nature, à nous réjouir de cette nature, c'est-à-dire la protéger peut-être, la garder, la transmettre. Et la question qu'on peut se poser, c'est au-delà de toutes les modes, est-ce que Dieu n'était pas le précurseur de l'écologie ? Simplement, c'est un grand mot pour nous maintenant. On vend beaucoup plus si on met que c'est écologique sur un produit, vous savez, hein, même si c'est pas du tout écologique, hein, on vend beaucoup mieux. Mais ça, ce n'est pas une question de marché ici, c'est une question de relation avec Dieu. La loi que Dieu a mise dans notre cœur, c'est de nous occuper de la nature, c'est de protéger la créature, c'est de protéger la création et de garder les règles établies par Dieu. C'est important. Donc Dieu nous appelle d'une façon à peine voilée à un mode de vie qui va nous rappeler ce qu'il a créé pour nous. Et puis, bien sûr, et ce sera mon dernier point, Dieu nous invite à la communion avec lui, qui est indispensable. C'est pour cela, n'oubliez pas, c'est pour cela qu'il nous a créé cette relation avec lui. Genèse 2, 15 à 17, relation entre Dieu et l'homme, avec ce que cela implique et deux points précisément. Accepter notre condition d'homme. Accepter notre état d'homme. Nous sommes des hommes et des femmes, mais nous ne sommes que des hommes et des femmes dans la création de Dieu. Nous sommes dépendants de notre Créateur. Et nous devons donc accepter cette dépendance de Dieu et cette domination de Dieu sur l'homme comme logique. Logique ! Elle n'est pas à discuter, elle est logique. C'est la loi de Dieu qui l'a mis en nous. Libératrice, parce qu'elle nous enlève d'un tas de soucis. Créatrice, est nécessaire à la vie tout court. Comment pourrions-nous vivre autrement que dans cette dépendance et dans cette soumission à Dieu? C'est la condition qu'il nous a proposée, et c'est une condition, on l'a vu au départ, qui amène la vie éternelle et le bonheur. Puis le deuxième point, c'est obéir. Obéir, simplement, mais volontairement, librement. Pas obéir en traînant les pieds, en râlant, en disant « encore, non ». Simplement obéir, parce que c'est ce que Dieu nous demande. Et pourquoi n'obéirions-nous pas? Dur à dire ça, hein? C'est dur à faire aussi, hein? Comment ne pas obéir à Dieu, puisque c'est ce qu'il nous a demandé comme relation avec lui? Librement à ses commandements, parce que c'est le chemin de la vie, parce que c'est le chemin de la joie, et parce que c'est le chemin de la sérénité et du bonheur. Qu'est-ce que l'homme recherche plus dans sa vie que le bonheur? Le chemin du bonheur, il est là aussi. C'est pourquoi la chute au jardin d'Éden est l'image même de la désobéissance à Dieu, à un seul de ses commandements, mais une désobéissance en toute connaissance de cause. Il n'y a pas d'excuse, ni pour Ève, ni pour Adam. Et n'allons pas chercher qui a tiré l'autre, etc. Il n'y a pas d'excuse. C'est une désobéissance délibérée. Ils avaient tout entre les mains, ils avaient le choix, ils ont fait un choix. Elle constitue donc un rejet de l'autorité de Dieu, de la place de l'homme, de l'alliance qu'il avait contractée avec l'homme Adam. Ainsi, l'homme va rejeter la divinité et l'image même de Dieu qu'il avait justement créée juste un peu inférieure à lui et couvert de gloire et de magnificence. Et juste pour faire la transition avec ce que vous apportera Philippe, je dirais que même après la chute, l'homme garde un reflet de cette dignité de Dieu en lui. Le péché a déformé l'image de Dieu en l'homme, mais ne l'a pas totalement anéanti. La rédemption aura donc pour but de restituer cette image brouillée de Dieu et de nous rendre semblables à l'homme avec un grand H par excellence, c'est-à-dire à Jésus-Christ, qui est la vraie image parfaite de Dieu. Par la foi en lui, le croyant va retrouver cette image qui avait été partiellement perdue. Et Philippe va nous parler maintenant de cet homme créé à l'image de Dieu.
Bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués. Merci Jean-Paul pour cette première partie du message. C'est vrai que nous venons de voir que l'homme a été créé afin de glorifier Dieu, de glorifier son Créateur, dans le but de lui rendre l'honneur qui lui est dû, en ayant avec Dieu une vraie relation. Et cela nous amène tout naturellement, évidemment, à reconnaître l'autorité de Dieu, ainsi qu'il est au-dessus de toute chose, et reconnaître qu'il est ainsi au-dessus de toute chose. Il est le Créateur et l'origine du monde qui nous entoure, et donc aussi l'origine de nos personnes, évidemment, c'est ce qu'on a déjà vu. Cela nous émerveille de voir cette magnifique nature dans laquelle il nous a placés, sans parler de la beauté, de l'organisation et du fonctionnement du corps humain, qui à lui seul est d'une complexité qui nous surprend toujours plus. C'est vrai, nous sommes bien conscients que nous sommes créés différents du reste du monde vivant. Nous, les hommes et les femmes, nous sommes à part dans la création, nous sommes différents des animaux, mais de quel ordre sont ces différences? Qu'est-ce que l'homme, en fait, et comment nous situons-nous dans la création? Si l'on considère le récit de la création mentionné en Genèse 1, on voit que la vie dans les airs et dans les mers, donc les premiers animaux, fait son apparition au cinquième jour. Donc il y a eu 6 jours pour la création, le 7e jour Dieu s'est reposé, et Dieu a créé les animaux, les poissons donc, dans les mers le 5e jour. Quant à l'homme, il a été créé à la fin du 6e jour, donc en tout dernier, juste après les animaux qui marchent sur la terre. Mais si on regarde de plus près le texte de la Genèse, on voit nettement qu'il y a déjà, dans la façon comment l'homme a été créé, une différence importante d'avec les autres étapes de la création, d'avec les animaux entre autres. Pour toutes les autres étapes de la création, Dieu a spontanément donné l'ordre et la matière s'est organisée. Vous vous rappelez peut-être que la lumière soit et la lumière fut. Donc il y a un ordre qui est donné directement, et la matière s'organise, la création se réalise. Que la lumière soit, et la lumière fut, et ainsi de suite. C'était comme ça pendant toutes les premières étapes de la création. Mais pour la création de l'homme, il en va tout autrement. Il y a comme une pause et une réflexion de Dieu avant l'acte créateur. Et là, je vous lis Genèse 1, le verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Puis Dieu dit, c'est la première fois qu'il se parle à lui-même. Cette pause, en fait, peut être comprise par le fait que la création arrive à son terme, à son apogée, et que l'homme qui va être créé est l'élément culminant de la création, le couronnement, la finalité de cette merveilleuse création. C'est donc la première fois et la seule fois que Dieu prend un temps de réflexion avant un acte créateur. Et quel temps de réflexion ? Tout d'abord, le faisons. Si on relit juste, donc, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». C'est vrai que ce « faisons », les pères de l'Église voient dans ce pluriel la première référence à la Trinité de Dieu, comme si Dieu se parle à lui-même. C'est-à-dire que les trois personnes de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, se sont concertées pour décider d'un commun accord de créer l'homme à leur image, à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. L'homme donc est créé à l'image de Dieu. L'homme entier, corps et âme, visible et invisible, est à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et si on lit Genèse 1, les versets 26 et 27, donc la suite, et Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il a créé à l'image de Dieu, il a créé mâle et femelle. » En quoi sommes-nous faits à l'image de Dieu ? De toute évidence, il ne nous a pas créés exactement pareil que lui, puisque lui-même n'a pas de corps physique. Mais la notion d'image de Dieu concerne notre raison, notre créativité, notre faculté de parler, notre volonté. Mais nous pouvons aussi refléter sa personne par notre aspiration à l'amour, à la patience, à la capacité à pardonner, à la bonté et à la fidélité. Bien sûr, nous ne serons jamais totalement comme lui, puisqu'il est le Créateur et nous sommes la création. Puis, plus nous laissons agir Dieu en nous, plus l'image que nous reflétons est conforme à la vraie nature de Dieu. Et nous lisons en Galates 5, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. » Maintenant, le contenu de l'image, qu'est-ce que c'est en fait qui... concrètement, qui fait que nous sommes l'image de Dieu, que nous avons été créés à l'image de Dieu. Après avoir vu que l'homme est créé à l'image de Dieu, arrêtons-nous sur quelques aspects de cette réalité. Et on va aborder ce point sous trois aspects qui sont les notions d'être moral, d'être spirituel et d'être relationnel. Tout d'abord, l'homme est un être moral. La morale, qu'est-ce que c'est la morale ? La morale, c'est l'ensemble des règles qui régissent notre façon de vivre. Ces règles se basent sur des valeurs de ce qui est bien et ce qui est mal. Et en plus, pour l'homme, Dieu a donné à l'homme la conscience, cette conscience qui lui donne des repères, les repères de ses valeurs morales. En Proverbe 20, on lit « La conscience est une lampe que le Seigneur donne aux humains pour échapper, pour éclairer le fond de leur cœur. » Vient ensuite toute la question de l'application de ces valeurs et donc du choix ou des choix auxquels l'homme est confronté. Depuis l'apparition du péché dans l'humanité, la conscience n'est plus toujours capable de remplir son rôle de juge dans le cœur de l'homme. Comme une lampe, elle peut s'éteindre. Elle est parfois souillée, égarée ou pervertie. Elle peut s'altérer et même se perdre. lorsqu'elle nous condamne et nous reprend et que nous persistons dans un refus de l'entendre. Mais ce qui est formidable, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que l'œuvre de Christ ravive notre conscience. En Hébreux, nous lisons « Le Christ s'est offert lui-même à Dieu, sous la conduite de l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant ?» La morale et les choix de vie qui y sont rattachés est donc une nette différence entre l'homme et le reste de la création. Il n'y a que dans l'homme que l'on voit cette notion de morale. L'homme est aussi un être spirituel. C'est vrai que dès sa création, Jean-Paul nous en a bien parlé, l'homme est en contact avec Dieu. Jusqu'à la chute, rien ne sépare la relation entre Dieu et l'homme. Il est donc normal que la notion de Dieu fasse partie intégrante de l'homme, même après la chute, donc pour nous aujourd'hui et pour ceux que nous côtoyons. Et c'est Blaise Pascal qui disait que l'homme a dans le cœur un vide qui a la forme de Dieu. Or, puisque ce vide a exactement la forme de Dieu, aucune autre chose ne saurait y prendre place efficacement. Dans Ecclésiaste, nous lisons aussi « Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. » La Bible nous invite à laisser se développer en nous l'Esprit de Dieu, afin de vivre avec cette nouvelle nature spirituelle. Et c'est ça qui est important pour nous-mêmes maintenant. Nous lisons en Éphésiens et Colossiens, « L'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Il est intéressant de noter aussi que l'aspiration spirituelle de l'homme est ce qui le différencie le plus du reste de la création. Chacun de nous a-t-il rencontré son Dieu personnellement? Sommes-nous tous en paix avec Dieu? Notre nature spirituelle est-elle réellement visible pour ceux qui nous entourent? On lit aussi en Romains, « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous rendent témoignage ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Mais l'homme est aussi un être relationnel, un être qui a besoin de relations. C'est vrai, on l'a vu, l'homme a été créé avec une relation très forte avec son Dieu. Mais malgré cela, on voit ça en Genèse 2,18, l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Et sans empiéter sur le prochain message sur l'homme qui traitera aussi de la création de l'homme et de la femme, nous voyons que Dieu a vu la solitude de l'homme. Il a vu que l'homme était seul, il a vu que ce n'était pas bon. Et Dieu, alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il n'a pas modifié la création, parce que la création est parfaite, mais il a complété. Il a complété en donnant à l'homme celle qui est son vis-à-vis ou son pendant, ou un second lui-même. L'homme, en tant que personne, a besoin de relations, mais aussi et surtout de relations basées sur l'amour. Cette notion d'amour, consentie en toute liberté et partagée, est aussi un aspect qui nous différencie du reste de la création et que nous avons en commun avec notre Dieu. Quel est le message central de l'Évangile? Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent en lui leur confiance échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. L'homme est créé à l'image de Dieu. N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire? Le fait que nous ayons été créés à l'image de Dieu est ce qui fonde notre valeur personnelle. Celle-ci ne repose donc pas sur nos possessions, sur nos succès, sur notre apparence ou notre notoriété. Nous critiquer, nous dévaloriser revient à critiquer ce que Dieu a créé et les capacités qu'il nous a données. La conviction que nous avons de la valeur à ses yeux nous aide à l'aimer, à le connaître personnellement et à aimer ce qui nous entoure. Personnellement, le fait de me rappeler ces vérités me fait à nouveau prendre conscience de la grandeur de Dieu et de l'amour de Dieu pour l'humanité créée, mais aussi et surtout pour moi en particulier. Oui, notre Dieu est infiniment grand, son intelligence est un abîme où la nôtre se perd. Comment a-t-il pu concevoir toutes ces merveilles dont nous faisons l'objet? Comment tient-il dans sa main l'univers tout entier et en même temps la moindre parcelle de mon être, jusqu'à pouvoir connaître le nombre de mes cheveux aussi bien que le nombre des étoiles? Et maintenant, je vous cite un ancien cantique qui exprime, d'après le psaume 147, à la fois la grandeur de Dieu et son attention toute pratique pour nous. Il compte les étoiles, mais il connaît le cœur brisé. Il met le soleil en marche, il éclaire le cœur brisé. Il trace aux mers leurs limites, il protège le cœur brisé. Et le refrain, « Ô, repose-toi en Jésus ton Sauveur, car il t'ouvre ton cœur. » Je vous invite maintenant une petite minute de réflexion, de silence, et je terminerai par une prière. Oui, Seigneur, nous voulons tous ensemble te louer ce matin de ce que tu es notre Créateur, de ce que tu es mon Créateur. Tu nous as créés à ton image, selon ta ressemblance. Mais tu as accompli encore bien plus. Tu es celui qui m'a racheté, qui a tout accompli afin que je puisse t'appeler mon Père. Car tu m'as tellement aimé que tu as donné ton Fils afin que je vive dans cette relation d'amour avec toi et dans l'espérance de te connaître. Dans l'espérance aussi de te voir face à face et de vivre toujours en ta présence. Sois loué, Seigneur, parce que ton amour n'a pas de limite et tu désires que tous parviennent à la connaissance de ton nom. C'est vrai, donne-nous de garder les yeux fixés sur toi et d'être à chaque instant de notre vie en relation et en communion avec toi. Sois loué, sois béni, Seigneur. Amen.
Alors, les annonces concernant les activités de l'Église cette semaine. Mercredi, la chorale. Jeudi, étude biblique, le livre de Néhémie, le chapitre 3. Samedi, le groupe de jeunes. Et dimanche, notre culte ici avec Sainte-Seine. Dimanche prochain, c'est le dimanche choisi pour parler de l'Église persécutée. On va donc aborder ce sujet dimanche prochain. Et puis, en suivant donc la semaine... Le mardi 13, alors juste parenthèse, mardi 13 à 14h30, il y a une étude biblique pour les aînés, mais le mardi 13 ici à 20h30, on aura une conférence par un pasteur qui est actuellement à Genève, en charge de paroisse à Genève, et qui a été 10 ans pasteur en Iran, et qui nous parlera de la condition des chrétiens dans les pays musulmans. C'est intéressant parce que c'est quelqu'un du terrain, et il vient de retourner, il est revenu récemment, et donc il nous partagera cela. Ça sera vraiment, je pense, intéressant. Et moi, je vous invite vraiment à venir à ce temps. C'est une soirée, ça sera de 8h30 à 10h, mais je pense que ça sera vraiment intéressant parce qu'on a là quelqu'un qui va nous donner des détails pratiques et, nous expliquer vraiment des choses qui nous travaillent aussi par rapport à ce qu'on entend aussi de différences dans les pays. Et puis le week-end d'après, le week-end du 17-18, je crois, hein, enfin le week-end juste après, il y a chez nos frères de l'Église Mélanie de Saint-Genis une série de cours le samedi et le dimanche, justement sur le sujet de l'islam, avec vraiment une formation découverte, les principes, etc. Et c'est sur 3 ou 4 séances. On mettra ça sur le site aussi pour que vous puissiez avoir les dates exactes. Mais je pense que ça sera aussi intéressant. Mais c'était vraiment un cours suivi. Donc, il sera aussi enregistré, je pense. Hein. Voilà des petits détails aussi pour les jours qui viennent. Dans les choses qui sont à venir encore, il y a de nouveau toute une série de panneaux d'affichage là-bas à remplir. Il s'agit juste du travail et d'inscription pour l'apéritif, l'apéro dînatoire qui est après la fête de Noël. Donc, on vous demande de vous engager pour faire des trucs différents. préparer des plats et puis vous inscrire aussi combien de personnes vous pensez qui seront présentes. C'est vraiment un problème important aussi de le savoir rapidement. Donc c'est important de remplir ça. La librairie nous fait faire une annonce. Le dépôt de Noël, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, le dépôt de Noël, mais la librairie commande un tas de petites choses, des petites babioles, des petits cadeaux que vous pouvez faire, des petits bouquins spéciaux, des cassettes, des CD, des choses comme ça, qui viennent pour un temps et les invendus repartent. Donc profitez pour compléter vos petits cadeaux de Noël, c'est à disposition à la librairie. Également au fond là-bas, les calendriers. Prenez vos calendriers, Anne-Marie s'occupera de vous les vendre. Prenez vos calendriers pour distribuer ce dont vous avez besoin. C'est important aussi de le faire assez rapidement, qu'on puisse là aussi ne pas les laisser traîner. Voilà, moi je n'ai pas d'autres... Oui Thibault.
Répétition samedi prochain à 14h, ici, pour les comédiens pour la pièce de Noël. Vous êtes supposés venir sans vos textes. Donc vous les avez appris. Voilà.
Merci. Voilà. Ça, c'est la loi de la fête de Noël, ça. Vous devez savoir votre texte. 14h samedi. 14h samedi, merci. On mettra aussi sur le site, comme ça, ça apparaîtra. Voilà. Je voudrais vous partager quelque chose qui m'a touché cette semaine. Vous savez qu'à la fin du mois, d'ailleurs, vous allez recevoir cette semaine le lien pour vous inscrire. À la fin du mois, il y a la Banque alimentaire. Dans toute la France, le dernier week-end du mois. Et on y est engagé, nous, de par la pastorale aussi. Et vous allez pouvoir vous inscrire pour venir travailler le vendredi ou le samedi. Il y a deux personnes sur le département de l'Ain qui s'occupent de la banque alimentaire, qui sont monsieur et madame Bollard. Peut-être certains connaissent Cathy Bollard, qui sont des personnes très, très engagées au point de vue associatif pour l'entraide. Et j'ai reçu un mail en début de semaine où elle m'a dit, où Cathy me dit, Jean-Paul, je suis anéanti, on vient de perdre notre fille de 26 ans qui était dans une ONG à Madagascar. Et ils sont vraiment, vous imaginez, hein ? Alors moi je lui ai répondu tout de suite, je ne sais pas du tout quel partage de foi ou quoi que ce soit, mais je lui ai répondu qu'on prierait pour elle et pour eux. Alors, je vous invite à le faire vraiment. C'est la fille de Cathy, je ne la connais pas personnellement, la fille de Cathy Bollard. Donc, c'est Cathy et son mari sont présidents de la Banque alimentaire sur le département de l'Ain à plein temps. Donc, c'est leur travail. Voilà. Donc, ils pensaient simplement, pensez à ceux qui souffrent, c'est important. Il y a aussi des gens qui souffrent dans notre Église. Pensons à prendre du temps aussi dans nos prières pour ceux qui souffrent. Même si nous ne connaissons pas les noms, Dieu les connaîtra aussi. Voilà. Donc, pensez à Cathy et à son mari. Je vous invite à vous lever. Je vous dirai encore deux versets qu'on trouve dans l'épître de Paul, la lettre qu'il a écrite aux Philippiens. C'est un peu dur après ce que je viens de vous dire, mais dans ce verset, ça le complète très bien. Si on entre dans le plan de Dieu, si on reste dans ce plan que Dieu a voulu pour nous. Dans les Philippiens, au chapitre 4, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À Dieu notre Père, la gloire au siècle des siècles. Amen.